en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci, Monsieur le Président. Merci, cher Michel. Et merci, Mesdames et Messieurs les académiciens, de m'accueillir aujourd'hui pour vous parler d'un sujet évidemment extrêmement important pour notre pays, mais aussi, on peut le dire et on le voit tous les jours davantage, pour le monde, pour notre façon de travailler ensemble, notre façon de produire des richesses, notre façon d'apprendre, notre façon également d'exercer nos institutions républicaines ou démocratiques, ou de ne plus les exercer. Évidemment, je parle ce qu'on appelle la révolution digitale, même si vous le verrez tout à l'heure au cours de ma présentation, dont j'ai cru comprendre, Monsieur le Président, que vous souhaitez qu'elle se termine peut-être à 4h moins le quart ? 4h, très bien. Vous avez été tellement long dans vos propos que... Alors, évidemment, il y a des périodes où les changements technologiques majeurs qui sont en cours modifient absolument profondément notre façon, encore une fois, de relativiser les relations au travail, de produire, comme je l'ai dit, les richesses, d'aménager l'espace, le développement urbain. Ça a été le cas, évidemment, au cours du 19e siècle, avec l'avènement des chemins de fer. Ça a été le cas, évidemment, au cours du 20e siècle, avec l'électricité, et les économistes désignent ces moments par les termes de révolution industrielle. Moi, j'aime pas beaucoup ça, car vous le verrez au cours de mon exposé, j'estime que la révolution digitale n'en est pas une. On est au contraire au tout début de quelque chose de beaucoup plus profond, et j'appellerais plutôt la révolution quantique, au sens où les technologies que nous allons utiliser, que nous commençons d'ores et déjà à utiliser, y compris pour commencer à avoir les prémices de ce que l'on peut en faire dans l'aspect numérique, vont aller beaucoup plus loin dans l'impact que cela aura sur nos vies quotidiennes, sur la façon, encore une fois, de créer des richesses nouvelles, d'exploiter des horizons nouveaux, au fur et à mesure où on creuse précisément les nouveaux aspects que nous offre la physique quantique, c'est-à-dire la physique subatomique, dans laquelle nous sommes désormais, nous, rentrés, les informaticiens, et j'y reviendrai tout à l'heure, car nous sommes arrivés aux limites de ce que la physique, entre guillemets, traditionnelle, peut nous permettre de faire pour traiter les milliards d'informations que nous générons quotidiennement dans le cadre de nos activités, mais j'y reviendrai. Alors, cette fameuse révolution digitale, on va encore l'appeler comme ceci pendant quelque temps, elle est vraiment aujourd'hui perceptible dans notre quotidien, à travers les usages qui sont les nôtres, les réseaux évidemment, les réseaux sociaux, mais aussi on commence à en voir maintenant des implications assez fortes dans le monde de l'entreprise, évidemment, la réorganisation des entreprises, ce que certains appellent l'ubérisation, et on y reviendra. Je n'aime pas trop ce néologisme, mais il est, je crois, assez bien compris. Et puis surtout, dans le monde industriel, et c'est peut-être ce qui m'intéresse davantage de creuser avec vous cet après-midi, à travers l'industrie, on appelle ça l'industrie 4.0. C'est l'Allemagne qui a été le premier pays à vraiment mettre ce concept, j'allais dire, sur la table, compte tenu évidemment de la structure même de son économie, qui est évidemment très industrialisée, c'est-à-dire donc l'importance de la maîtrise des données pour changer profondément le processus de production. Donc retenez bien, l'industrie 4.0 est un point important. Nous, on appelait en France ça l'industrie du futur. C'est un élément très important. Pourquoi je vais vous en parler à la fois avec passion, mais également en étant relativement bien informé? Car, et pardon de le dire dans ces lieux, Monsieur le Président, mais n'y voyez là aucune velléité de publicité de ma part, juste pour indiquer aux académiciens que nous avons en France, désormais, le leader européen et l'un des trois leaders mondiaux en matière de technologie de l'information, à travers l'entreprise que j'ai l'honneur de diriger, Atos. C'est la plus grosse coopération franco-allemande depuis Airbus, puisque nous avons repris, vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'activité informatique de Siemens en 2011, qui représentait 33 000 ingénieurs que nous avons intégrés. Notre groupe, qui comptait 40 000 ingénieurs lorsque je l'ai rejoint après avoir quitté Harvard, dispose aujourd'hui de plus de 100 000 ingénieurs dans le monde. Et nous sommes le leader en Europe de la cybersécurité, on va en parler évidemment, des supercalculateurs. Nous avons été les premiers à lancer des laboratoires d'ordinateurs quantiques, j'y reviendrai évidemment tout à l'heure. Nous sommes le premier gestionnaire et exploitant de données en Europe. Donc on exploite des milliards et des milliards de données pour les clients européens. Le leader également dans le domaine des paiements électroniques. Et donc vous voyez qu'on a dépassé beaucoup le cadre uniquement des services informatiques à proprement parler. Ce qui fait que, compte tenu de notre position avec une entreprise qui est européenne, qui a opté pour le statut d'entreprise européenne, nous avons un siège à Paris et un siège à Munich. On est l'une des rares entreprises à avoir deux sièges. Très franco-allemand dans sa conception, dans son origine, mais très européen évidemment et très mondial dans son ambition d'aider nos clients dans cette transformation numérique. Alors pour moi, j'ai deux convictions en ce qui concerne précisément l'importance de cette transformation. C'est que cette révolution digitale, elle s'appuie sur une économie de la donnée, ce qui est extrêmement important. Je le dis souvent, mais je prends cette image, l'or noir de demain sera constitué par les données que nous créons. Et j'incite vraiment tout le monde, à chaque fois que je vois des clients, des grandes entreprises ou des particuliers, particuliers évidemment de faire attention à leurs données, mais les clients de ne pas avoir peur de créer des données, de les stocker, même s'ils ne savent pas quoi en faire. Car il est extrêmement important, et on y reviendra tout à l'heure, quand on commence à réfléchir à l'intelligence artificielle, on commence à voir, alors à ce qu'on appelle, alors j'ai réfléchi à comment j'allais traduire, parce que je sais que dans ces lieux, on doit parler évidemment des mots. Dans mon activité, le franglais est évidemment très fréquent. Alors, comment vous traduisez, Denis, comment on traduit le machine learning dans cette haute assemblée? C'est pas très beau, mais enfin bon. Machine apprenante, bon. L'apprentissage automatique. Apprentissage machine, voilà. Alors, dans tout ce qui est évidemment cette nouvelle capacité d'utiliser de l'intelligence artificielle pour créer des produits et des services nouveaux. L'apprentissage qui se fait par la maîtrise, le malaxage, j'allais dire, des données, est extrêmement important pour avoir, par des réseaux neuronaux apprenants qui nous permettent de tester des algorithmes, d'élaborer des algorithmes de plus en plus sophistiqués, puis ensuite d'en extraire la substance pour aller ensuite les mettre au sein de robots sur le terrain qui vont optimiser tel robot de fabrication dans une usine, qui vont permettre de faire de la reconnaissance faciale extrêmement rapide et très précise pour faire de la surveillance ou de la télésurveillance dans les gares, dans les aéroports, que sais-je. Cette phase d'apprentissage, évidemment, pour qu'elle fonctionne correctement, elle nécessite d'avoir des montagnes et des montagnes de données. Et donc ensuite, de pouvoir les exploiter. Vous voyez bien que dans cette révolution digitale, donc cette première conviction, qui est la mienne, produisons des données, on en produit de plus en plus, mais gardons-les, même si on ne sait pas encore aujourd'hui ce que nous allons en faire, car c'est le gisement de l'innovation et de l'intelligence de demain. Dans ce contexte, on y reviendra, l'Europe a un rôle à jouer, en particulier pour protéger ces fameuses données, et j'y reviendrai, je mène un combat très actif au niveau de la Commission européenne sur ce sujet. La deuxième conviction, évidemment, c'est que cette révolution digitale, elle sera donc créatrice de valeurs, et ça ne vous surprendra pas que je ne partage pas les visions de mon ancien collègue et voisin de bureau Larry Summers lorsque j'enseignais à Harvard. Il avait le bureau à côté de moi, et je ne suis pas du tout un décliniste, au contraire. Je ne suis pas du tout en faveur de ceux qui disent qu'on rentre dans une stagnation séculaire. Je pense au contraire que nous avons là un gisement tout à fait extraordinaire, voire vertigineux, de croissance et d'emploi, pour peu évidemment que nous nous préparions à saisir ces nouvelles opportunités. Alors, la révolution digitale, elle s'appuie donc, comme je l'ai dit, un, c'est très important, sur une économie de la donnée. Deux, sur un nouveau modèle industriel, Industrie 4.0. 3, sur l'automatisation et l'intelligence artificielle. J'en ai dit un mot et j'y reviendrai. Le tout évidemment couplé à l'informatique en nuage, on va dire, cloud en anglais. Même si on est déjà au-delà de l'informatique en nuage, le cloud computing est un concept qui a émergé à partir de 2008-2009. Il est déjà pour nous daté. Le concept était tout simplement d'avoir des infrastructures, donc dont nous sommes les opérateurs, qui permettent donc de mutualiser ces infrastructures et donc de traiter les données de façon décentralisée, délocalisée, j'allais dire, de nos clients sur des infrastructures qui sont partagées et donc qui vont permettre de minimiser les coûts, d'avoir un accès plus rapide. Ça, c'était vrai en 2008 ou 2009, quand on traitait peu de données. Depuis, vous avez tous entendu parler, j'imagine, de la loi de Moore, qui prévoyait, j'y reviendrai donc dans la physique classique ou la physique des semi-conducteurs, que tous les 18 mois, on pouvait doubler la capacité d'intégration des microprocesseurs. Cette loi de Moore, elle s'applique aussi dans la génération des données, car tous les 18 mois, désormais, on multiplie par 2 le nombre de données que l'information humaine génère quotidiennement, que ce soit la nôtre, en tant que consommateur, qu'utilisateur, ou celle des usines, depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Donc tous les 18 mois, on prend Lucie, ou ce qu'il y avait avant Lucie, et on multiplie par 2. Alors, bien sûr, on génère ces informations, mais fait unique dans l'histoire de l'humanité, on les génère, certes, mais on les stocke. On n'a plus besoin désormais d'aller sur le frontispice des temples pour aller voir de l'information dont la maîtrise était assez complexe, avec un langage qui était assez limité pour la diffuser. Au contraire, elle est là maintenant, elle est éternelle, c'est une première dans l'histoire de l'humanité, et évidemment, elle est retrouvable. Donc ça, c'est évidemment un élément qui est tout à fait important. Tous les 18 mois, retenez ça, on double, ce qui fait que, par exemple, pour vous donner l'ordre de grandeur, en 2020, on aura à disposition sur la planète, alors c'est des images, elles sont un peu triviales, mais si je vous dis que c'est 40 zettabytes d'informations, peut-être que ça ne vous parlera pas. Donc je vais dire que c'est plus d'informations disponibles, générées par l'activité humaine, que de grains de sable qu'il y a sur la Terre, ou, pour ceux qui sont plus férus d'astrophysique, de soleil, d'étoiles, non pas de galaxies, que d'étoiles dans toutes les galaxies de l'univers, en tout cas observables ou identifiables, hors trou noir et énergie noire. Donc voilà. Donc ça sera en 2020. Évidemment, vous avez tous compris qu'en 2021, on sera non plus à 40, mais à 80 zettabytes, et c'est le principe du joueur d'échecs et des grains de sable ou des grains de riz qu'on met dessus. On est rentré dans cette dynamique-là. Donc il y a effectivement cette vague absolument gigantesque d'informations, et je le redis, préparons-nous, organisons-nous pour les traiter, et nous, industriels que nous sommes, et c'est pour ça que, Monsieur le Président, j'ai été appelé tout simplement, lorsque j'ai compris ça progressivement avec mes collaborateurs, de passer d'une société de services informatiques traditionnelle, qui ne vendait que de la productivité ou de la compétitivité à ses clients, à passer à une entreprise qui traite la donnée, qui la travaille, qui crée de la richesse et qui la stocke. Préparer l'avenir en la stockant aujourd'hui. Et donc, tout naturellement, oui, vous l'avez rappelé, pour moi, il est devenu une évidence de racheter Bull, non pas parce que j'avais été jeune directeur général à un âge où d'autres ont un destin nettement plus brillant que le mien, je vous rassure tout de suite, j'ai pas l'intention de racheter France Télécom ou Orange. C'était juste parce que, encore une fois, Bull avait préservé, on avait su préserver une capacité tout à fait extraordinaire et unique de produire en Europe des supercalculateurs. Alors on appelle ça dans notre jargon des HPC. C'est les ordinateurs les plus puissants au monde. Il y a trois, quatre fabricants dans le monde. Créé évidemment en éteint, mais on est bien meilleur, monsieur le rabbin, je me permets de le dire. Voilà, c'est ce que mes collaborateurs me disent, mais je pense pas qu'ils ont tort. Si j'en crois du reste certains contrats que nous gagnons maintenant en Grande-Bretagne et qui étaient des chasses gardées, y compris dans des aspects de défense. Donc on est là très, 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 très focalisé sur cette capacité à avoir la capacité pour nous d'avoir les systèmes qui vont processer, qui vont traiter les données que nous gérons, que nous stockons pour le compte de nos clients, car encore une fois, la valeur ajoutée, elle va se faire au plus près d'où se trouvent les données. Et c'est la raison pour laquelle, je vous dis, on n'est plus dans le cloud computing, dans l'informatique en nuage, où finalement il y avait peu de données, c'était assez léger, donc les données pouvaient se... On avait des réseaux, des bandes passantes, des réseaux 3G, des réseaux 4G, qui permettaient à ces données d'être véhiculées. Aujourd'hui, il y a tellement de données, c'est devenu tellement lourd, au sens, on appelle ça dans le jargon, on dit que c'est lourd, qu'on n'est plus dans le cloud computing, mais dans le fog computing. Le fog, ceux qui ont connu le fog à Londres en particulier. Voilà, il y a tellement, le nuage est tellement dense, il est tellement chargé, bah, qu'il ne peut plus se décoller. Et donc on est maintenant dans le fog computing, vous voyez, là, je ne sais plus encore comment il faut traduire ça, décidément. Je sais que je sens que je ne serai pas réinvité, monsieur le président. Le président m'avait dit surtout pas d'anglicisme. L'informatique brumeuse, Charles qui est londonien, qui nous rappelle l'informatique brumeuse, mais elle est assez lourde, elle est très dense, hein, elle est plus que brumeuse. Hein, et donc ça, c'est l'informatique dans laquelle on est aujourd'hui, parce qu'encore une fois, ces données sont de plus en plus lourdes, donc il faut les traiter localement, là où elles sont produites. Et j'en viens donc à cette deuxième conviction, qui est le fait que face à cette révolution, donc digital, on assiste parallèlement à un retour de la réindustrialisation et un mouvement de balancier assez inédit et finalement assez inattendu, qui est que finalement on revoit se relocaliser des activités et des emplois là où les informations sont produites. Et ça sous l'angle de deux phénomènes. Le premier, il est vraiment technologique et technique. Donc on a tellement de données à traiter qu'on a des machines effectivement que nous fabriquons et qui sont spécialisées pour pouvoir créer de la valeur, de l'intelligence artificielle à travers des algorithmes tels que je vous les ai décrits tout à l'heure d'apprentissage qui vont ensuite... Alors c'est très intéressant de voir, hein, ces algorithmes d'apprentissage, c'est un peu comme pour un enfant. Il faut des semaines et des semaines, on fait tourner sur nos ordinateurs, des semaines et des semaines de données. Alors au début on a un algorithme qui est pas très précis, et puis qui reconnaît pas vraiment bien les formes, puis après ça il va commencer à pouvoir voir une silhouette, il va pouvoir voir si c'est un homme ou une femme, et puis après ça il va pouvoir voir s'il a plus de 20 ans ou moins de 20 ans, puis après ça, et il faut des semaines et des semaines d'apprentissage à travers ces données qu'il malaxe en permanence, pour pouvoir progressivement avoir des algorithmes qui vont avoir un usage plus spécifique. Ça c'est la logique dans laquelle nous sommes, et évidemment, comme je le disais, on voit donc de plus en plus un effet de balancier où ces données qui deviennent absolument essentielles, je dirais, dans la phase de conception, dans la création de richesses, mais également, je dirais, dans le secret industriel de fabrication des uns et des autres, eh bien, va devoir être localisé et protégé. Alors, la deuxième raison pour laquelle on voit un balancier de relocalisation, c'est que les grands groupes, les clients, je parle des grands groupes pour l'instant, on parlera des particuliers évidemment tout à l'heure, c'est un sujet absolument essentiel, mais les grands groupes ne veulent pas avoir des personnes ou des ingénieurs, des scientifiques, ce qu'on appelle des data scientists, des scientifiques de la donnée qui viennent de nulle part. Les données qu'ils traitent et les algorithmes qui sont créés, qui sont très spécifiques à leurs activités, que ce soit dans la chimie, que ce soit par exemple dans l'industrie automobile, pour vous donner un ordre de grandeur, l'industrie automobile aujourd'hui, nous avons pratiquement, les plus grands fabricants automobiles utilisent nos systèmes, on modélise sur nos systèmes donc des situations d'accidents, on appelle ça des crash tests. Auparavant, il fallait plusieurs centaines de voitures qu'on projetait sur un mur pour aller faire les calculs ensuite de résistance des matériaux et voir s'ils étaient bien protégés. Désormais, il n'en faut plus que 7. Et tout le reste, évidemment, est modélisé sur les systèmes. Vous pensez bien que ces algorithmes spécifiques, c'est un élément de compétitivité pour les fabricants. Ils n'ont pas envie, évidemment, que d'autres puissent les utiliser. Donc on voit bien qu'il faut avoir, évidemment, des ressources qui sont relocalisées, mais qui sont soumises aussi aux problèmes de confidentialité, qui sont font quasiment partie de l'entreprise sans en faire partie. Et donc, on ne va pas vouloir prendre le risque d'avoir, par exemple, des ingénieurs de grande qualité du reste qui ne résident pas, mais je ne dirais même pas à proximité, même pas dans le pays où ça se passe. Et vous savez que l'industrie de la donnée a vu dans les années 90, 2000, 2010, donc un phénomène qu'on appelle alors l'externalisation, on dit en anglais l'offshore, où beaucoup de nos grands concurrents sont allés exploiter donc des compétences remarquables de jeunes et de moins jeunes très bien formés, en particulier en Inde, comme vous le savez, mais pas que, pour avoir donc des coûts, évidemment, de production, de recherche, de développement pas chers, environ un tiers, voire la moitié, des fois plus, du coût dans nos pays développés, qui supportent tout un tas d'autres charges, et donc pouvoir créer de la compétitivité. Et bien ça, on voit, ce phénomène est en train d'être un phénomène qui est en train de revenir complètement, précisément, à travers la nouvelle évolution, la nécessité d'avoir de la proximité, la nécessité d'avoir de la sécurité et la nécessité d'avoir de la compétence locale. Vous voyez que ce phénomène, je voudrais m'arrêter une seconde, ce phénomène de réindustrialisation et de relocalisation est un phénomène qu'il faut avoir en tête lorsqu'on en parle de ce sujet. Le deuxième élément, c'est évidemment que nous sommes dans un monde essentiellement et considérablement connecté. Alors là, on passe maintenant évidemment plutôt à l'utilisateur, mais pas que, puisqu'on va parler de l'Internet des objets. On a aujourd'hui 3 milliards de téléphones portables, on appelle ça des smartphones, comme vous savez, 7 milliards de cartes SIM et 25 milliards d'objets connectés donc sur la planète. On estime qu'il y aura 50 milliards d'objets connectés en 2020, c'est-à-dire dans 3 ans hein, quand même, c'est pas rien, et 80 milliards en 2025. Et bien entendu, ces réseaux, ces objets connectés communiquent les uns avec les autres. Alors, les individus, évidemment, à travers les réseaux sociaux. Hein, je rappelle, par exemple, tout le monde connaît Facebook, si je parle que de Facebook. Pour la première fois, le 24 août 2015, Facebook a dépassé en une journée le milliard de personnes connectées sur le réseau. Donc on est évidemment là dans des chiffres, dans des masses extrêmement grandes. D'où du reste, pour ceux qui sont intéressés par les médias, la politique, une autre perception des choses. Ça, c'est software ou Vatican III, mais on en reparlera tout à l'heure. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Les réseaux, le monde connecté, on crée de la donnée, on est connecté, mais on a besoin de plus en plus de capacités de traitement parce que, tout simplement, on est quasiment au bout, et c'est là où je vais en revenir un instant. Le président m'a autorisé à vous parler un petit peu d'une de mes passions qui est l'ordinateur quantique, la physique quantique, mais l'ordinateur quantique. Et finalement, je voudrais juste faire une petite incise à ce stade. D'abord, cette fameuse loi de Moore dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est une loi empirique qui a été énoncée par Gordon Moore, qui était à l'époque l'un des dirigeants de la société Intel, le leader mondial des puces et des processeurs informatiques, et qui disait finalement au début des années 60, quand il a énoncé cette loi empirique, qu'il disait au fond, dans l'état actuel de la compréhension de la physique. Et on est encore dans une physique de type newtonienne ou Maxwell. On n'est pas encore dans la physique quantique, qui est la physique subatomique. Au fond, tous les 18 mois, avec les évolutions de la physique, donc ces portes logiques qui sont constituées par les transistors, on sent qu'on pourra doubler la capacité, donc l'intégration sur une puce de 2 cm sur 2, donc de ces fameux transistors, voire de ces fameux processeurs, et ce sera nécessaire pour pouvoir traiter ces informations qui sont de plus en plus abondantes. Et ça a fonctionné, et effectivement, tous les 18 mois, on a des nouveaux systèmes qui sortent, on a des systèmes, ça par exemple, tout à l'heure, quelqu'un m'a parlé d'un cré, ça aujourd'hui, c'est 100 fois un cré dans les années 80. Voilà, ça. Donc, et Cray était la plus grosse machine, évidemment, qui servait à faire de la simulation nucléaire essentiellement. Donc ça évidemment, on a donc continué et on continuera. Alors il y a un petit problème, c'est qu'on arrive précisément aux limites de la physique entre guillemets classique. Et aujourd'hui, on grave, pour vous donner un ordre de grandeur, donc on utilise du reste une des propriétés de la physique quantique en supraconductivité, hein, par parenthèse. Hein, donc pour vous dire qu'on est déjà dans les applications de cette physique-là, de ce modèle-là, pour nous décrire un monde qui n'est plus le monde visible, ni le monde macroscopique, même au niveau de l'atome, mais le monde subatomique. Au niveau atomique, où on est maintenant quasiment rentré, je dirais même dans la gravure des puces de silicium, on grave à 10 nanomètres. Alors 10 nanomètres, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 60 atomes, mis bout à bout. Et là, évidemment, alors on va continuer, on pense qu'on va pouvoir graver à 8 nanomètres, peut-être 5, C'est-à-dire qu'on sera à ce moment-là au niveau pratiquement de l'atome. Et évidemment, vous comprenez que là, on rentre maintenant dans les perturbations de nature quantique. C'est-à-dire que la physique qui a été élaborée de façon complètement géniale, du reste, au début du XXe siècle, par une bande, je le rappelle souvent du reste, une bande de jeunes, je suis très heureux de voir que notre pays redonne le pouvoir aux jeunes, une bande de jeunes physiciens européens. C'était l'Einstein, 25 ans, c'est 25 ans quand il a élaboré sa théorie de la relativité générale. C'était Heisenberg, 28 ans. C'était Pauli, 27 ans. C'était Schrödinger, c'est un vieux lui, 31 ans. C'était toute une jeune bande d'Européens, qui avait moins de 30 ans, et qui ont conceptualisé précisément que finalement, quand on commence à descendre au niveau subatomique, les lois de la physique classique, celles que l'on perçoit, ne marchent plus, donc il faut en trouver d'autres, parce qu'on peut aller plus loin et plus profond. Et c'est ce aller plus loin et plus profond qui nous ouvre. Alors, les lois ont fonctionné, elles ont été établies. Le principe de la physique quantique repose sur deux principes de base. Les ingénieurs, vous allez nous retrouver, vous trouvez ça. C'est d'abord le principe de la superposition et deuxièmement le principe de l'intrication. C'est-à-dire que quand on est au niveau subatomique, un système peut avoir plusieurs positions en même temps. C'est la superposition et on va jouer là-dessus pour multiplier le chat Schrödinger, évidemment. On va se jouer sur ce principe-là pour multiplier de façon exponentielle la capacité de réservoir d'informations que va contenir un qubit. C'est plus un bit, c'est un qubit. Le bit, c'est 1 ou 0. Le qubit, c'est tous les états de superposition entre 0 et 1, à l'infini, constitués dans un seul système. Et donc, vous voyez, à ce moment-là, si on sait les faire parler entre eux, l'extraordinaire, on appelle ça la suprématie quantique, qui a été mise en œuvre, identifiée pour la première fois en 1965 par Richard Feynman, prix Nobel de physique, un des plus grands physiciens du XXe siècle, et qui dit, finalement, on va peut-être pouvoir créer des ordinateurs qui vont aller plus loin, en utilisant précisément cet état de la superposition. Et le deuxième élément que je partage rapidement avec vous, sans trop vous embêter, c'est l'intrication, c'est-à-dire la capacité que, en physique quantique, que lorsque deux particules sont en interaction, elles sont liées, on dit, elles sont intriquées, et ce qui se passe sur l'une arrive instantanément sur l'autre, où qu'elles se trouvent. 1 kilomètre, 10 kilomètres, 1 milliard d'années-lumière, 10 milliards d'années-lumière. Et évidemment, cette capacité va être extrêmement importante pour la sécurité. Alors ça a été, et je vous dis ça parce qu'on arrive aujourd'hui aux limites de la loi de Moore. D'un côté, vous avez ces gigantesques monceaux de données, ce tsunami de données, mais on n'en est qu'au tout début. C'est pour ça que j'ai coutume de dire, vous avez aimé la révolution digitale, vous allez adorer la révolution quantique. On n'a rien vu. Les données, multipliées par 2 tous les ans, le nombre de données créées, évidemment, vous imaginez les capacités que l'on va pouvoir en retirer. Mais faut-il encore avoir les systèmes qui nous permettent de les traiter, de les processer? Et aujourd'hui, on travaille sur des ordinateurs, les supercalculateurs, que nous fabriquons nous-mêmes. Nos très grands clients, par exemple, c'est le commissariat à l'énergie atomique. C'est un secret pour personne. Nous simulons l'arme nucléaire française sur nos ordinateurs, qui ont besoin d'un nombre très très important, d'une puissance très très importante. Et on sait qu'aujourd'hui, on travaille sur des ordinateurs jusqu'en 2024. Après 2024, le CEA, la direction des applications militaires du CEA, a besoin d'avoir une visibilité pour 2030, 2035, 2040, évidemment, pour notre sécurité nucléaire et notre souveraineté nucléaire. Et là, on sent qu'on bute. Et on est tous là-dessus, sur ce problème. Alors, c'est la raison du reste pour laquelle il faut commencer à chercher autre chose et à travailler, ce qui est normal au fond. Voilà, notre environnement aujourd'hui, l'interaction qui est la nôtre avec notre environnement, il ne se fait plus uniquement au niveau macroscopique, désormais, il se fait au niveau maintenant subatomique. Et c'est cette exploitation de cet environnement par la maîtrise de lois qui ont fonctionné, qui sont les lois de la physique quantique, mais maintenant les industriels que nous sommes, qui commençons à descendre dedans, qui nous permet d'envisager des capacités et des mondes tout à fait inexplorés et de façon absolument extraordinaire. Je vous donne des exemples. D'abord sur la capacité de traitement de ces machines. Le président m'avait autorisé à en parler, donc j'espère que je ne suis pas trop long sur ces questions. Vous sentez mon intérêt et l'intérêt que j'ai aussi pour que les jeunes y aillent, parce que c'est un domaine tout à fait passionnant dans lequel la France n'est pas en retard, mais il ne faut pas perdre de temps. Les Américains, Google en particulier, Microsoft, Facebook font la course en tête. Nous sommes un acteur très important et les Chinois, à travers Huawei en particulier, sont également extrêmement dans la course. Voilà en gros les quatre grands acteurs. Et puis pour ça, vous avez le monde académique qui est autour. L'exemple dont je voulais vous parler, c'est que on a évidemment, pour faire fonctionner nos supercalculateurs, on est maintenant donc, je le disais, à la limite de la matière, et puis également de l'échauffement, parce que on fait passer des électrons dans des petites rainures, ça va tellement vite que évidemment l'échauffement est gigantesque et il faut extraire la chaleur et on est là aussi quasiment au bout. Donc on voit bien qu'on commence à être quasiment au bout de la limite de ce qui a fondé cette révolution digitale depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Pour avoir, alors évidemment, comme on est dans les règles de la physique quantique, il faut que ces qubits, ben ils fonctionnent entre eux, ils se parlent les uns les autres. Évidemment, pour qu'il n'y ait pas de ce qu'on appelle de décohérence, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de perte d'information, car en physique quantique, dès que vous mesurez un système, ben vous avez l'information, mais il perd évidemment son état quantique. Donc, et on travaille au zéro absolu. On travaille quasiment au zéro absolu, moins 273 degrés Kelvin, plus 0,2 microns de degré à peu près, pour précisément avoir des qubits qui sont, alors ça peut être des ions piégés, ça peut être des techniques avec des atomes de diamant, ça peut être alors une toute autre logique de la photonique quantique. Il y a différentes méthodes qui sont faites aujourd'hui en laboratoire. La France n'est pas du tout en retard, et je tiens à saluer ici parmi vous les travaux remarquables qui sont faits par les équipes au CEA avec lesquelles nous coopérons, et notamment Daniel Estève qui est membre de l'Académie des sciences, qui fait partie de mon conseil scientifique. C'est vrai aussi avec les équipes du laboratoire LKB, fameux laboratoire LKB de l'UPMC, de l'Université Pierre-Marie Curie, qui a vu un certain nombre de prix Nobel, dont Serge Haroche, qui fait également partie de notre communauté scientifique. Et donc, on a vraiment aujourd'hui dans le monde académique des scientifiques de renom et de grande qualité qui travaillent sur ces qubits. Aujourd'hui, on sait faire communiquer en gros 3, 4, 5 qubits entre eux, sans perdre la cohérence. Et nous avons, évidemment, pour vous donner l'ordre de grandeur, les plus grosses machines, les plus puissantes du monde aujourd'hui, pourraient être remplacées par un ordinateur qui ne nécessiterait que 40 qubits. Vous voyez, les plus grosses machines, les plus gigantesques qui soient pour simuler l'arme nucléaire française ou que sais-je, c'est un ordinateur à 40 qubits. Donc vous voyez que c'est... Alors évidemment, quand on en met 100, 200, 300, 1000, 10 000, vous imaginez évidemment la puissance absolument considérable de traitement qui va être nécessaire du reste par rapport au flot d'informations que nous apprêtons à héberger et à traiter. On n'en est pas encore là, et je ne voudrais pas justement vous dire qu'on va le voir demain. On pense que les problèmes physiques sont tels que... Est-ce que c'est dans 15 ans? Est-ce que c'est dans 20 ans? C'est cet ordre de grandeur qu'on aura un ordinateur quantique généraliste. Mais on y travaille. Et nous, on a pris une approche pour la première fois, parce que mon objectif, évidemment, c'est le troisième volet, pour pouvoir permettre à la France de tirer parti de ces technologies. Ben, comme d'habitude, il faut évidemment de l'innovation. Finalement, on l'a. Je tiens à rendre hommage du reste à la Commission européenne, parce que je me suis beaucoup mobilisé auprès de la Commission européenne et de Jean-Claude Juncker, pour que l'Europe ait un programme. Ils ont appelé ça maintenant le Quantum Manifesto, le manifeste quantique, et donc la Commission vient de libérer 1,3 milliard d'euros pour financer donc des recherches en information quantique, cryptologie quantique, ordinateur quantique. Par parenthèse, on est encore assez loin de ce que fait la DARPA, le ministère de la Défense américain, ou la NSA, la National Security Agency, qui dépense des milliards aujourd'hui, en partie beaucoup sur ces sujets qui sont absolument essentiels pour le traitement d'informations, mais aussi la protection des systèmes, et je vais y revenir. Mon point, c'est que la formation est un enjeu absolument essentiel. Et donc, on a décidé, dans mon groupe, d'avoir une démarche qui, je crois, est la première, justement, unique, de créer un premier simulateur quantique. C'est-à-dire qu'on a un ordinateur qui va sortir dans quelques semaines, qui est assez gros, qui fait 1 mètre sur 1 mètre. Hein, donc, qui est un supercalculateur sur lequel nous avons simulé un ordinateur quantique à 40 qubits. En fait, c'est 37 qubits, 38, 39. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre cette machine à disposition des jeunes, alors des jeunes, des doctorants ou des post-doctorants, hein, c'est au niveau des doctorants, pour leur apprendre désormais à programmer en quantique. Parce qu'on pense de façon tout à fait différente en quantique. Hein, on est en probabiliste d'abord, donc on n'a plus un résultat qui est certain. On refait plusieurs fois l'opération pour l'avoir. On ne sait jamais si une particule, selon le principe d'Heisenberg, est d'un endroit ou à un autre, on ne peut pas le savoir. Donc on fait plusieurs opérations, mais on les fait très vite. Et évidemment, on a une approche holistique. Alors que nous avons été formés, moi je suis informaticien de formation, vous l'avez rappelé, et j'ai été formé à une approche qui est très séquentielle, au fond, qui est l'approche séquentielle de type von Neumann, où finalement on traite les informations les unes après les autres. Et ma pensée, notre pensée, était assez séquentielle. La pensée de ceux qui font les ordinateurs quantiques ou de la physique quantique, elle est holistique. Je vous prends un exemple, pardonnez-moi, il est trivial, mais pour qu'on comprenne bien ce que je veux dire. Vous êtes dans une salle, vous avez 1000 personnes, et vous vous posez la question, combien dans cette salle sont, par exemple, des hommes de plus d'un mètre 80 qui ont les yeux bleus et les cheveux blonds. Bon, ben, vous y allez, vous prenez le premier, le deuxième, troisième, quatrième, et puis vous faites les rangées, puis au bout de 10 heures, 15 heures, vous avez à peu près votre résultat de façon à peu près certaine. Vous avez une autre approche, ça c'est l'approche von Neumann. Elle marche bien. Alors si évidemment vous êtes plus alerte, vous pouvez aller plus vite, et vous courez à travers les travées, vous allez encore plus vite. L'approche von Neumann, c'est une approche, l'approche quantique, holistique, on va dire, c'est on aborde le sujet globalement, et on dit tout simplement, combien parmi vous sont des hommes qui mesurent 1m80, qui ont les yeux bleus et les cheveux blonds. Il y en a trois qui lèvent la main, vous avez le résultat. L'approche holistique. Alors évidemment, vous pouvez la répéter deux, trois fois, parce que peut-être qu'il y en a qui sont un peu trahis, ils mesurent 1m19, ils se sont mis 1m80, vous pouvez mesurer deux, trois fois, mais vous avez l'approche holistique. Et je vous donne cet exemple qui est trivial, mais qui est assez parlant, pour vous dire que la programmation quantique va changer évidemment un rapport très différent à la façon d'adresser précisément ce monde et ces informations par rapport à notre mode de pensée traditionnel et séquentiel. Et donc notre propos, c'est d'avoir d'ores et déjà des systèmes qui permettent d'avoir une programmation, un langage permettent d'adresser précisément ces ordinateurs lorsqu'ils seront en activité, et j'ai aucun doute qu'ils seront en activité. Alors on va les voir, les premières applications, on les voit tout de suite, car l'un des grands risques que l'on a avec les ordinateurs quantiques, et pour vous dire que tout ceci est sérieux, on travaille d'ores et déjà avec l'ANSSI, qui est l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information en France, qui est une très belle agence avec des ingénieurs extrêmement compétents qui protègent nos systèmes d'information. Je conclurai mes propos sur évidemment la sécurité informatique et la cybersécurité. Aujourd'hui, l'ensemble des systèmes d'information du monde repose en matière de cryptologie sur ce qu'on appelle un algorithme qu'on appelle RSA, qui est un algorithme qui repose sur la factorisation des nombres premiers, très très grand en nombre. On prend un nombre et on le factorise. Ça prend du temps. Et c'est parce que ça prend du temps qu'on a ces clés qui permettent d'éviter qu'on écoute les systèmes qu'on ne veut pas écouter ou qu'on ait de façon assez facile vos clés, même si on a vu encore cette semaine et encore pendant le week-end qu'il y a des méthodes. Et c'est précisément parce qu'un ordinateur quantique saura factoriser n'importe quel nombre premier en une fraction de seconde, là où un ordinateur classique, quand on prend des clés à 1024 ou 2048 bits, il faut des siècles pour les factoriser avec des ordinateurs classiques. Et donc, les agences de sécurité, que ce soit la NSA, que ce soit l'ANSSI en France, que ce soit, se disent, mais dès qu'un ordinateur quantique va arriver sur le marché, il va pouvoir casser tous les codes, qui protègent, entre guillemets, et je mets des grands guillemets, nos systèmes d'information, en tout cas encore dans le monde d'aujourd'hui. Donc on nous a demandé de travailler d'ores et déjà sur des algorithmes à venir. La durée d'un algorithme de sécurité, c'est entre 25 et 30 ans, donc pour les 25 prochaines années, et là on pense effectivement qu'on aura des ordinateurs quantiques qui vont pouvoir peut-être arriver sur le marché et casser progressivement ces codes. Il faut donc commencer à protéger, c'est le point maintenant que je vais adresser avec vous, il faut évidemment protéger l'ensemble de nos systèmes d'information, et évidemment en utilisant donc d'une part donc des algorithmes nouveaux, des langages nouveaux, on va pouvoir donc commencer à former ces générations qui vont penser différemment, qui vont bâtir un peu comme nous on a bâti, moi dans ma jeunesse, on appelait ça l'assembleur, c'est-à-dire qu'on avait quatre portes logiques et on adressait ces quatre portes logiques avec des langages qui étaient des langages extrêmement simples. On a maintenant un assembleur pour les ordinateurs quantiques qui va adresser ces qubits. On est les premiers au monde à le faire, à l'offrir précisément aux grandes universités, évidemment d'abord françaises et européennes, former des générations de doctorants pour commencer à précisément, avant même, et c'est un peu nouveau là, avant même d'avoir les ordinateurs, d'avoir les langages qui vont précéder pour une fois les machines plutôt que l'inverse. Alors c'est très important, je le disais, pour les aspects de sécurité. Donc parce que on voit bien que pour que tout ce que je décris puisse vraiment fonctionner, avec évidemment derrière les usages nouveaux que j'ai décrits, l'industrie 4.0 que j'ai décrit, la façon de travailler aussi nouvelle, très important, j'aurai pas le temps de détailler ce point, mais on voit que les jeunes générations qui sont issues de ce monde-là travaillent dans ce qu'on appelle la gig economy, c'est-à-dire donc cette économie du contrat. En fait, je vous donne un exemple pour nous. Je suis ici avec Marc Muller, qui est un de mes collaborateurs, qui est le responsable des talents chez Atos. On va embaucher cette année, Marc, à peu près 15 000 ingénieurs chez Atos, 15 000. Donc c'est à peu près la capacité. Donc c'est ce qu'on veut embaucher, évidemment parmi les meilleurs au monde, dans nos grandes écoles, nos grandes universités, et pas qu'en France, évidemment. Donc il faut qu'on soit attractif. Ces programmes, évidemment, sont très attractifs pour des jeunes, vous l'imaginez. Mais il faut aussi que ça corresponde à leurs aspirations et aussi à leur façon de travailler. Eh bien, ils sont revenus me voir, Marc Meyer et ses équipes, en me disant, si jamais on veut embaucher des bons, des excellents, bien sûr, on va leur proposer un contrat de travail, et un contrat de travail à durée indéterminée. Mais une très grande partie d'entre eux, désormais, va vouloir avoir des contrats personnels sur un projet. Ce qu'on appelle la gig economy. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, moi je suis conscient de ma valeur, donc je vends mon savoir sur un projet, et puis après, j'irai ailleurs et je me vends après. Voire même, je vends mon savoir, et c'est vrai en particulier sur les data scientists, les scientifiques de la donnée qui sont très demandés, je vends mon savoir sur un type de projet, mais en parallèle je le vends aussi sur un autre. Et puis peut-être que le soir, je veux faire, parce que j'ai un peu de temps, j'ai ma voiture, je fais un peu de Blablacar ou de Uber. Et puis peut-être que pendant le week-end, je vais me faire un peu spécialiste de Airbnb. Et donc, la gig economy, c'est précisément cette pluriactivité formidable réalisée par les plateformes. Utilisez ce mot et retenez-le. Les plateformes, précisément, et les plateformes bifaces, qui a valu du reste le prix Nobel à Jean Tirole, qui met en évidence précisément à la fois de l'offre et de la demande, donc en faisant financer les infrastructures par la publicité, par exemple, c'est vraiment le travail de Jean Tirole. Et ça, c'est évidemment, ça réorganise complètement la façon de travailler, mais sachez que c'est déjà dans les esprits. Et je vais me permettre, il ne va pas être content, Marc, parce qu'il va me dire que je n'avais pas le droit de le dire, mais je vais le dire quand même. Dans les évaluations mondiales pour nous projeter à 2020, c'est demain, ils m'ont dit, mes collaborateurs, 15 000 par an, on en recrute. Ils disent, il faut qu'on se prépare à recruter près de 40%, comme ça. Parce que ça va être ça, la demande. Donc c'est plus le contrat à durée indéterminée qui était l'alpha et l'oméga, c'est au contraire la liberté. Ah oui, mais ça veut dire que pour nous, c'est un changement radical d'organisation au travail. Attirer ces jeunes, faire en sorte qu'ils soient à l'aise, essayer de les garder, contrôler le secret, le fait que ce qu'on fait ne va pas se retrouver ailleurs, c'est un changement total de ce que eux nous demandent pour pouvoir faire en sorte que nous allons bénéficier de leur compétences et de leur savoir. Et vous voyez donc derrière tout ça que c'est bien... bien sûr, si on raisonne aujourd'hui en regardant uniquement le smartphone et on dit, ça crée rien tout ça. Si on raisonne en se disant qu'on commence à rentrer dans le monde subatomique, c'est-à-dire qu'on commence à traiter l'information là où elle se crée vraiment et là où elle est de plus en plus pertinente. Et je pense évidemment à la médecine, je pense évidemment à l'assurance, je pense évidemment par exemple, notre partenaire Siemens, on a un fonds commun, on investit ensemble, et évidemment on investit beaucoup sur ces aspects quantiques, y compris sur des capteurs quantiques, où on va pouvoir aller maintenant au niveau quasiment subatomique pour aller capter dans les usines. Toutes les usines de Siemens ont été digitalisées par nous. On a des pétaflops de données donc quotidiens à traiter. Et évidemment, on fait de la maintenance prédictive, on change les pièces automatiquement dès qu'on sent qu'elles sont un peu fatiguées. Tout ça se fait, alors peut-être sans l'intervention de l'homme, mais les hommes sont ailleurs. Ils sont sur le service, ils sont sur la logistique, ils sont sur la côté. Et on voit donc derrière toute une activité nouvelle se recréer autour de l'exploitation de plus en plus localisée près des centres de production, près des centres de consommation, près des centres de recherche et développement des données. Je voudrais conclure en vous disant qu'évidemment tout ça va fonctionner. J'ai coutume de dire qu'au fond, l'activité humaine, elle s'est d'abord développée sur l'espace territorial et on s'est organisé pour créer nos richesses, les protéger, l'activité politique aussi, l'activité culturelle. C'était borné par les frontières géographiques, naturelles, montagnes, fleuves, mer, océan, tout ça a créé des bassins de culture, a créé des pays, a créé des États, a créé des communautés, au fond. Communautés. Et c'était la maîtrise de l'espace territorial. Puis on a commencé à maîtriser un second espace, qui était l'espace maritime. Alors là, il a fallu aussi l'organiser autrement. Le droit maritime, on se l'est partagé, on a créé des règles, des normes. On ne pouvait pas attaquer n'importe qui ou n'importe comment. Il y avait des pirates, évidemment, mais on a un peu normalisé tout ça. Puis après ça, il y a eu un troisième espace, qui a été l'espace aérien. Bon, très bien, il a fallu organiser l'espace aérien, éviter que les avions se rentrent les uns dans les autres, tout ça. Désormais, il y a un quatrième espace, qui est créateur de richesses. C'est l'espace informationnel. Et donc, évidemment, on est maintenant dans cette superposition de ces espaces. L'espace informationnel, c'est encore un peu le Far West, bien sûr, mais il nous appartient, évidemment, très vite, de l'organiser, de le structurer, de créer des règles, de faire en sorte qu'on les respecte, parce que, précisément, dans cet espace-là, comme dans les trois autres, eh bien, c'est la maîtrise de cet espace qui nous permet de créer des richesses, de les consommer, de les distribuer. Et donc, il faut les protéger. Et là, on rentre précisément, dans cette période de notre siècle, dans des réflexions très fortes sur l'organisation de ces espaces informationnels. Et on le voit bien avec les géants américains qui ont parfaitement compris ça et qui aspirent totalement ces données, sans même que nous nous en rendions compte, que nous le sachions. Et après, évidemment, pour en tirer, je dirais pas que c'est forcément pour nous espionner, quoique. Mais je dirais que c'est tout simplement parce que on va pouvoir les stocker et à un moment, avec les algorithmes dont je parlais tout à l'heure, l'intelligence artificielle qui va en être générée, et bien créer de la richesse, des services nouveaux, des produits nouveaux, des offres nouvelles. Et voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'ai un double combat au niveau européen, et que j'ai mené avec le président de SAP, à la demande de la Commission européenne. D'abord, c'est vraiment de dire aux Européens que les données des Européens doivent être traitées, stockées, processées en Europe. Alors, on accepte tout le monde. On est un continent ouvert. L'un des seuls aujourd'hui, du reste. On parlait tout à l'heure avec le président, peut-être qu'après l'élection, du reste d'hier, vous avez plutôt l'intronisation de notre nouveau président, on se rend bien compte qu'il y a un monde libre d'un côté, ouvert, qui accueille, et puis le monde anglo-saxon. Nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, on accueille tout le monde, on est ouvert, on accepte les échanges, mais il faut qu'on ait des règles. Il faut qu'on ait des règles, et que ceux qui viennent traiter et processer les données chez nous, en Europe, les traitent selon nos règles. Et en particulier, qu'on sache exactement ce qu'on peut en faire et ce qu'on ne peut pas en faire. Alors, c'est un combat qu'on a mené depuis plusieurs années, qui fait maintenant des émules. Heureusement, la Commission a commencé vraiment à s'emparer de ce sujet, avec le vice-président Ansip. Je pense qu'on va y arriver. C'est un combat de 5 ans, mais je crois que c'est extrêmement nécessaire. Il faut derrière, évidemment, avoir des règles extrêmement strictes. Et puis, je conclurai en disant qu'il faut absolument pas être naïf. Il se trouve que vous avez vu que désormais, on peut interférer, y compris dans les systèmes démocratiques, on vient de le voir, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, même si j'avais peut-être un peu anticipé, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, pour les processus démocratiques, on en revient à mes 3 États et au 4e, pour les processus démocratiques, on le voit, l'État assure la sécurité physique des candidats et des personnes qui se présentent aux élections, et notamment à la plus importante d'entre elles, à l'élection présidentielle. Désormais, je crois qu'il faudra également que l'État assure la protection informationnelle de nos candidats, et c'est un sujet sur lequel j'ai sollicité les pouvoirs publics. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement, très rapidement, trop rapidement, Monsieur le Président. J'espère que je ne vous ai pas embêté avec mes ordinateurs quantiques, mais retenez, que le 21e siècle sera quantique. Ce ne sera pas le siècle de la donnée, ce sera le siècle des applications de la physique quantique. Il faut généralement deux siècles du reste, entre la thermodynamique, les équations de Maxwell, les équations de Newton, pour que ceci se traduise ensuite en réalité industrielle. Et bien finalement, la physique quantique suit cette règle toute simple. Merci.